Donc je vous présente Pierre Vesperini. Vous êtes ancien élève de l'ENS Ulm, ancien membre de l'École française de Rome, docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image à Paris 7. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont La philosophia et ses pratiques d'Ennius à Cicéron, aux éditions de l'École française de Rome en 2012, donc un livre qui est issu de votre thèse. Puis, plus récemment, « Droiture et mélancolie » sur les écrits de Marc Aurèle, paru chez Verdi en 2016, et « Lucrèce, archéologie d'un classique européen » chez Fayard en 2017. Alors, dans ce livre que vous signez chez Fayard, « La philosophie antique », vous cherchez, je vous cite, « à reconstituer les différentes expériences qu'on appelait philosophées dans l'Antiquité », des expériences qui sont tout à la fois, vous le montrez, sociale, théorique, et cette invitation au voyage à laquelle vous nous invitez, pour le coup, a pour fonction de déconstruire les discours que nous tenons, justement, sur ce que serait la philosophie antique. Donc, objectiver ces discours pour repenser l'expérience, les expériences, le foisonnement des expériences de philosophie dans l'Antiquité. Donc, avant peut-être de revenir sur cette méthode qui est la vôtre, que vous pratiquez, j'allais dire, depuis un certain nombre d'années, et dont on a déjà l'habitude par vos précédents écrits, peut-être j'aimerais vous demander ce que vous appelez la philosophie antique, cet objet qui, selon vous, nous serait des plus familiers, dont nous sentirions fort proches. Alors, pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'en un sens, j'allais dire, nous qui enseignons, nous savons bien que la philosophie antique, ce n'est pas un objet si familier que ça. Ce rapport aux antiques, il relève peut-être de tout sauf de l'évidence, je dirais. Et il me semble qu'il n'est pas certain qu'on ait des représentations spontanées, justement, de ce que ça peut être que philosopher dans l'Antiquité. Hein. Donc, en montrant que ce rapport aux antiques, il est médiatisé par notre formation d'académique ou d'historien de la philosophie ou d'universitaire, est-ce que en fait vous visez justement les universitaires qui ont une certaine pratique des textes, une certaine pratique des auteurs antiques, ou est-ce que vous renvoyez à une expérience plus spontanée de ce que peut être la philosophie antique? De ce point de vue-là, je complète un tout petit peu ma question. Est-ce que vous ne considérez pas un peu trop vite qu'il y aurait une manière d'envisager ce que c'est que la philosophie antique? Une seule manière, puisque vous savez bien que, par exemple, les historiens de la philosophie reprochent souvent à des auteurs comme Pierre Hadot ou Michel Foucault de considérer qu'il y aurait quelque chose comme la philosophie antique. Voilà pour ma première question.
Merci, merci beaucoup. Question. Alors, qu'est-ce que j'entends par philosophie antique? J'entends effectivement une espèce de dénominateur commun à différentes. Effectivement, il y a toujours des affrontements dans le milieu académique, mais il y a quand même une base, disons, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Et donc, quand je parle de la philosophie antique, je parle, disons, d'une chose assez large, effectivement. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, la philosophie antique, c'est en fait la projection dans l'Antiquité de la discipline actuelle qu'est la philosophie. La discipline actuelle qu'est la philosophie, elle est aussi contradictoire et pluriel qu'on peut le souhaiter. Donc, c'est pas pour autant qu'il n'existe pas aujourd'hui une discipline académique qui est la philosophie. Et donc, l'histoire de la philosophie antique traditionnelle, celle qu'effectivement je vise dans ce livre, au-delà de ces différences, eh bien, donc elle projette sur l'Antiquité ce qu'on entend aujourd'hui à peu près par philosophie. C'est-à-dire, en un mot, je dirais, une activité fondée sur la raison, une activité rationnelle, mais au sens moderne de la rationalité, c'est-à-dire une activité non religieuse, par exemple. Voilà, pour faire une première réponse rapide, tout le monde est d'accord aussi bien, je veux dire que les opposants dont vous parliez, ils sont quand même d'accord sur ce fait qu'il y a une extériorité entre, par exemple, que la philosophie est extérieure à la religion dans l'Antiquité. Bon, ce qui n'est pas le cas, et ça, je pourrais y revenir. Donc voilà, pour répondre brièvement à votre question, ce que je vise, donc, c'est donc cette projection d'une catégorie disciplinaire moderne sur l'Antiquité. Pour préciser cette réponse, je voudrais citer un texte que j'ai lu tout récemment d'un historien des religions de Chicago qui s'appelle Bruce Lincoln. Il est peu connu en France, mais c'est un très grand historien des religions. Et il a écrit un texte absolument remarquable qui a été traduit en français, ça tient sur une page. Ça s'appelle « 12 thèses sur l'histoire des religions ». Et il dit, c'est extrêmement compliqué l'histoire des religions parce que il y a une espèce de tension, de contradiction entre la discipline et son objet. Parce que l'objet religion, c'est une chose qui se prétend universelle, transcendante, etc. Et la discipline historique vous ramène toujours à l'humain, au terrestre, au contingent, à l'arbitraire, etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ce texte, bien des choses qu'il dit sur le problème que ça pose, on peut l'appliquer à l'histoire de la philosophie, au problème de l'histoire de la philosophie. Peut-être qu'on y reviendra. Mais à propos du mot religion, il dit que c'est un ethnonyme disciplinaire. C'est-à-dire que nym, c'est le nom, synonyme, homonyme, et ethno, donc c'est l'ethnos, c'est la tribu, disons, on peut le dire pour aller vite. Donc, en fait, le mot religion, c'est un mot qui n'a de sens que dans notre tribu à nous. Bon. Et on pourrait en dire autant du mot philosophie. C'est un ethnonyme disciplinaire. Donc c'est ça en fait que je veux faire. Mais j'ai quand même appelé mon livre La philosophie antique, puisque je pars de ma tribu à moi. Je dis, bon, alors on part de là et on fait un essai d'histoire.
Voilà. Merci. Alors du coup, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre méthode? Puisque vous écrivez, nous voulons comprendre en ethnologue la philosophie antique. Dès votre avant-propos, hein, ce geste-là d'ethnologiser la philosophie antique, autrement dit considérer les anciens, comme vous le dites, comme des papous ou des Iroquois, je me demandais jusqu'à quel point justement on pouvait pousser la comparaison, jusqu'à quel point elle était tenable. Puisque, comme vous l'avez rappelé, que les antiques diffèrent de nous, c'est une chose. Mais comment nous rapporter aux antiques? Peut-on s'y rapporter comme à n'importe quelle tribu, comme à n'importe quel peuple? J'ai en tête, en fait, un texte de Castoriadis qui dit justement « On ne peut pas ethnologiser la Grèce, c'est-à-dire la considérer comme une civilisation comme une autre. C'est pas prendre un parti pris dans l'idée qu'il y aurait une hiérarchie des valeurs entre civilisations, mais c'est dire qu'on ne peut pas faire comme si nous n'étions pas aussi des enfants, donc des enfants qui héritent, qui inventent, qui débordent, qui trahissent, mais aussi des enfants avec des textes, avec une langue d'abord, un imaginaire qui est forgé, justement parce que vous l'avez dit, nous sommes des animaux qui pratiquons la philosophie, qui pratiquons la démocratie, une certaine expérience de la démocratie. Donc est-ce qu'on peut considérer que l'Antiquité, c'est une tribu comme une autre?
C'est une excellente question. Moi, j'adore Castoriadis. J'aime énormément Castoriadis. Mais je pense que sur la Grèce, il se trompe complètement. C'est-à-dire, et comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire que il a besoin de se dire que les Grecs, ce sont nos grands ancêtres. Voilà. Et donc, bon, ça l'amène à tenir effectivement une lecture, effectivement, disons généalogique. On vient de là. Et en réalité, il n'y a aucune raison de dire cela. C'est une tribu. Alors, effectivement, vous avez absolument raison, ce n'est pas une tribu comme les autres. Ce n'est pas comme les Papous ou les Iroquois. En ce sens, vous avez absolument raison. Pourquoi? Parce que c'est comme si, bon, pour reprendre la métaphore de la famille, des ancêtres, bon, imaginez que vous habitez une grande maison et puis tout d'un coup, on découvre dans le jardin et dans le grenier, etc., des tas d'objets exotiques. Des gens qui ont habité là avant vous, voyez, ça veut pas dire que vous avez un rapport avec eux, c'est à dire c'est là effectivement. Donc en fait, ce serait comme si on, on avait des ancêtres papous ou des ancêtres iroquois, mais en réalité, il y a une rupture entre eux et nous. Hein, ça, c'est très important. Et ça, on peut le montrer très facilement en se demandant, au fond, mais quand est-ce qu'on a commencé à dire que c'était nos grands ancêtres? Quand est-ce qu'on a commencé à dire, mais on vient d'eux? Et ce que je dis un peu au début du livre, c'est que, en fait, pendant très longtemps, les philosophes ne s'intéressaient pas spécialement à l'Antiquité, ne cherchaient pas du tout, notamment les fondateurs de la philosophie moderne, les gens comme Descartes, comme Spinoza, les gens comme D'Alembert. Bien sûr, ils s'intéressaient à l'Antiquité, mais l'idée, c'était de fonder une science nouvelle et pas de se revendiquer de l'Antiquité. Pour vraiment qu'on arrive à l'état actuel des choses, c'est-à-dire à vraiment cette idée que les Grecs, c'est vraiment très important pour nous, c'est nos grands ancêtres, on vient d'eux, etc., il faut attendre la fin du 18e et le début du 19e siècle. Et il faut attendre ce grand moment qui est donc la grande, ce qu'on peut rappeler le grand printemps allemand, donc les gens comme Schiller, Goethe, Herder, Humboldt, et bien sûr Hegel. Donc c'est tout ce grand moment en allemand qui va faire des Grecs les grands ancêtres de la civilisation européenne, et particulièrement d'ailleurs de l'Allemagne. Et par ailleurs, la deuxième caractéristique de cette période, c'est l'importance attribuée à l'histoire. C'est en fait qui est absolument nouveau. C'est là qu'on commence à penser que l'histoire, le processus, l'évolution historique est absolument riche de signification. Donc il y a tout un développement. Et donc ça, c'est l'histoire de la philosophie de Hegel. Et donc il devient très important de voir mais comment naît la philosophie. Elle va avoir un grand parcours. Elle va commencer avec Thalès en Ionie, et puis elle va faire un chemin jusqu'à Berlin finalement. Bon. Et voilà. Donc c'est ça pour vous répondre.
Alors, si je comprends bien, vous critiquez en fait cette idée qu'on aurait un rapport presque mythique, mythologique, totémique à l'Antiquité. Et je me demandais. Il me semble que vous tranchez pas la question. En même temps, vous faites ce livre, donc vous la tranchez aussi. Quel rapport on a à l'Antiquité? Alors, est-ce qu'il faut renoncer à se rapporter à cette période comme étant une période quand même qui a l'importance fondamentale qu'elle peut avoir, sans tomber dans une mythologisation? Est-ce qu'il faut pas tracer une troisième voie, c'est-à-dire? C'est ce que vous faites en un sens, puisque on y reviendra tout à l'heure. Mais vous utilisez les antiques pour essayer de penser, dans l'épilogue, des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui.
Oui.
Donc, le rapport, l'usage que nous pouvons faire des antiques, ce qui témoigne pas de ce lien privilégié que nous avons à lui. Par-delà, c'est après la traversée du fantasme, finalement, après la traversée du totem.
Oui, tout à fait. Vous savez, je pense à cette phrase de Jaurès. À l'époque donc du débat sur le patriotisme et l'international, etc. Et il disait, cette phrase était célèbre, un peu d'internationalisme éloigne de sa patrie, beaucoup d'internationalisme en rapproche. Et là, de la même façon, on pourrait dire que si on fait un petit peu, disons, de ce que je fais, donc pour aller vite, disons, de l'histoire anthropologique, bon, moi je préfère appeler ça de l'histoire tout court, mais bon, il faut qualifier, on pourra y revenir. Si on fait un petit peu d'ethnologie historique, effectivement, ça éloigne finalement les Grecs de nous. Bon. Mais si on en fait beaucoup, si on mène à fond cette démarche, eh bien, ça nous en rapproche. Mais ça nous en rapproche autrement. Ça, c'est plus comme des espèces de statues un peu, je dis le mot un peu violent, mais un peu insipide, un peu de marbre blanc ou de plâtre qu'on voit dans les musées. Mais ça devient vraiment des personnages et des événements colorés et qui peuvent nous dire des choses ou nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Ou pas d'ailleurs, il faut pas forcément le vouloir. Il faut, j'ai souvent cette idée qu'il faut laisser l'indépendance à son objet. Il faut pas se dire je t'étudie parce que tu vas m'apprendre des choses. Mais si vous acceptez de vous déprendre totalement de votre besoin d'avoir un intérêt à cette personne, voyez, si vous arrivez à vous dire au fond, je t'étudie parce que tu m'intéresses, tu es une fin C'est un peu conscient ce que je dis. Tu es une fin en soi, tu n'es pas un moyen pour moi. Tu es une fin en soi. Et j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te restituer à ce que tu étais. Et bien, effectivement, à ce moment-là, on peut avoir une espèce de bonne surprise. Et on se dit, tiens, ça, c'est une chose qui peut m'apporter quelque chose par ailleurs. Vous voyez ?
Merci. Et si on essayait d'entrer un petit peu plus dans votre méthode, vous parliez effectivement d'histoire anthropologique. Est-ce que vous pourriez nous la décrire avant qu'on s'arrête sur des petits moments de cette histoire et cette immersion que vous nous proposez justement ouais. dans l'Antiquité ?
Oui, alors disons que oui, c'est une méthode, mais. Bon, c'est vrai qu'il y a une méthode, mais en fait, souvent, la méthode, elle apparaît après qu'on a travaillé. On s'est rendu compte comment on a travaillé, parce qu'en fait, je n'ai pas au départ une méthode. Et en fait, j'ai lu récemment un texte, c'est le premier Sherlock Holmes. Donc, parce que Sherlock Holmes, c'est très à la mode chez les historiens, Carlo Ginzburg, Luciano Canfora, ils aiment bien parler de même. Pour moi, Sherlock Holmes, ça remontait à l'adolescence, je me dis bon, c'est pas très... Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu. Donc j'ai commencé à lire, j'ai pas fini d'ailleurs, la première étude en rouge, c'est le premier Sherlock Holmes. Et c'est assez extraordinaire, parce que donc, on voit Sherlock Holmes, personnage assez fou d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi. La folie de Sherlock Holmes. Bon. Mais il arrive sur la scène du premier meurtre avec Watson. Il est déjà un peu au courant, on lui a expliqué ce qui s'était passé. Il y a Scotland Yard qui l'a averti. Voilà. Et il dit... Donc Watson il dit, alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ? Tout de suite, Watson veut savoir. Et Sherlock Holmes lui dit, il ne faut jamais commencer à théoriser avant d'avoir examiné tous les faits, toutes les données. Donc il va d'abord... Alors, c'est vrai que dire ça, ça ne fait pas très sérieux, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il faut d'abord réfléchir beaucoup, problématiser, théoriser, savoir comment on va s'y prendre. Et en fait, si vous arrivez, vous dites, mais il faut... Hegel a cette expression, il emploie l'expression « séjourner dans la chose hein, »,« in der Sache »,« séjourner dans la chose ». Bon, eh bien, c'est un peu ce que je fais d'abord. Je séjourne dans la chose. Derrière ce livre, il y a beaucoup de lectures, même de lectures où je me disais, je lis ça, je ne sais pas pourquoi je lis ça. De lectures de textes anciens. Parce que parfois, par exemple, il m'est arrivé de lire Polybe, historien, en me disant, je ne vais rien trouver dans Polybe. Et en fait, dans Polybe, il y a des témoignages merveilleux sur les pratiques des néo-académiciens à Athènes et des choses absolument pittoresques. Mais qui ne sont jamais, à ma connaissance en tout cas, sur lesquels j'ai rien trouvé chez les historiens de la philosophie antique, parce qu'on ne va pas penser à lire Polybe, vous voyez. Donc il faut séjourner dans la chose. Donc ça, c'est très important, cet aspect donné d'abord. Bon. Après, je dirais qu'il y a quand même un fil. Il y a un grand principe de méthode qui est très important. Premièrement, c'est le nominalisme. C'est-à-dire, si je veux étudier ce que c'était... S'il pouvait y avoir quelque chose comme la philosophie antique, il faut que je regarde ce qu'on appelait philosophia dans l'Antiquité, ou des termes similaires, hein, interchangeables, sapientia, sophia en grec, même doctrina, literae, etc. Parce que parfois, c'est absolument interchangeable. Et puis, un corollaire de ce principe, c'est qu'il faut que, quand je parle de la philosophie antique, disons ses expériences variées, etc., il faut que je sois capable... il faut que ça puisse correspondre à un terme grec ou latin. Alors, je vous donne un exemple évident, mais vous parliez de Pierre Hadot tout à l'heure, par exemple. La notion d'exercice spirituel par laquelle il définit, qui joue un rôle très important dans dans son interprétation de la philosophie antique, est simplement intraduisible. Le terme même de spirituel est intraduisible en grec ou en latin classique. Donc, pour moi, il y a là un problème absolument majeur. On ne peut pas... Et alors, je me souviens d'un échange avec Madame Hadot à ce propos, où elle me disait, mais alors, quel terme vous voulez qu'on emploie ? Nous savons bien que ce terme n'est pas un terme, etc., mais quel terme voulez-vous qu'on emploie ? Et je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous employer un terme à nous ? Nous avons des tas de termes, eux-mêmes, ils ont des catégories propres. Pourquoi nous devrions-nous, par exemple, le terme de orthopraxia, l'orthopraxie, le fait d'agir droit, c'est quelque chose qu'on rencontre pour décrire l'éthique, aussi bien chez les épicuriens que chez des stoïciens. Donc on pourrait parler d'orthopraxie, l'agir droit. Et évidemment, si on commence à utiliser des catégories qui relèvent d'une tradition de pensée totalement différente, on aboutit forcément à des erreurs, à des anachronismes, à des grossissements.
Oui, surtout que l'exercice spirituel, pour le coup, ça a été théorisé par Loyola, en fait, Saint-Ignace de Loyola. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que le problème, c'est plutôt de projeter, comme vous le dites, un modèle, plutôt que d'essayer de parler de ce modèle.
Oui, je pense aussi, puisque vous en parlez, par exemple, à la catégorie de directeur de conscience. Mm-hmm. Bon. Mais, donc après, ça essaime. Ce qui est terrible, c'est qu'après, ça, vous savez, les gens, par exemple, des gens qui travaillent sur d'autres domaines de l'Antiquité, par exemple, le judaïsme antique, ou l'hermétisme, la tradition hermétique, par exemple, et qui veulent faire un peu de comparatisme, ils veulent comparer avec la philosophie antique. Alors évidemment, ils ne vont pas lire les philosophes, etc. Donc ils disent, la philosophie antique, c'est l'exercice spirituel. Donc après, si vous voulez, ça... Et donc, ils vont faire des comparaisons à partir de ça. Et ça, du coup, ça fausse tout le tableau et ça empêche de voir des points de jonction. Ou au contraire, ça fait apparaître de fausses différences.
Alors, si on s'immerge dans cette histoire que vous nous proposez, cette histoire donc, des expériences antiques de la philosophie, vous identifiez un certain nombre de moments. Alors, peut-être de s'arrêter sur quelques-uns d'entre eux, j'aurais voulu vous demander si vous considérez que cette histoire est continue, c'est-à-dire ce que vous repérez, ce sont des inflexions ou bien à la limite des superpositions de strates qui donneraient lieu à des moments différents. Ou bien est-ce que vous pensez cette histoire comme profondément discontinue? Vous parlez de révolution. Et en même temps, parfois, vous employez le lexique théâtral, changement de scène. Donc moi, c'est une question que je me suis posée à votre lecture. C'est une question que je me pose aussi. En fait, parce que, évidemment, comme vous le dites, nous écrivons aujourd'hui. Donc comment savoir, comment identifier ce qui constitue une rupture? Du point de vue qui est le nôtre, mais j'aurais aimé vous poser cette question.
Oui, donc effectivement, ça, il faut bien le dire. J'ai choisi des moments. Il y a pas, bien sûr, je ne parle pas de tout. Notamment, je ne parle pas des stoïciens, je ne parle pas des néoplatoniciens. J'ai choisi. C'est pour ça que j'ai tenu à dire que c'est un essai d'histoire. C'est un essai. Ça n'est pas une somme. Et alors, comment j'ai choisi, effectivement? Est-ce que j'ai choisi en me disant c'est les moments les plus importants dans une histoire continue? Je dirais non, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû parler d'autres moments. Si je n'ai pas parlé des stoïciens, ça n'est pas parce que je considère que ce n'est pas important dans l'histoire continue, ou des néoplatoniciens. Ce n'était pas ça le propos. Je vais vous dire pourquoi, du coup, qu'est-ce qui a présidé au choix? Mais il y a bien une histoire continue, c'est-à-dire qu'il y a bien effectivement le plan est chronologique. Je n'aurais pas. Après tout, on pourrait imaginer un essai qui fasse quelque chose d'un peu kaléidoscopique. Non, il y a bien des choses qui se mettent en place les unes après les autres, des strates les unes après les autres. Et effectivement, il y a des mutations qui se produisent, mais ces mutations ne signifient pas que le passé disparaît. Bien sûr, donc, et ça, c'est on le voit aujourd'hui dans une société donnée. Il y a évidemment des choses qui changent, mais c'est un truisme. Mais malheureusement, parfois on est obligé de rappeler des truismes parce que la pratique savante nous conduit à le faire. Je veux dire que il arrive souvent qu'on dit voilà, là à partir de là, changement, bon, comme si ce qu'il y avait avant ne perdurait pas.
C'est ce qu'a fait Foucault.
Oui, voilà, par exemple. Ça, cette épistémologie française, enfin, je veux dire, qui est très attachée à la mutation, au changement, etc. Je ne la considère pas comme erronée. Je pense qu'effectivement, il y a des changements. Et il y a l'excès inverse, on se dit rien ne change jamais. Tout, non. Donc voilà, c'est simplement, il faut se baser sur l'expérience que nous avons tous, c'est-à-dire que le passé perdure malgré les ruptures. Alors maintenant, je reviens à la question du choix. Alors ça, c'est vraiment une chose très importante. Ce que j'ai voulu faire, c'est en fait donner à un lecteur tous les outils nécessaires pour après s'orienter dans n'importe quel chapitre de la philosophie antique. Et par exemple, avec ce que je dis sur Socrate ou sur Platon, je me dis que le lecteur aura des... ou sur les écoles philosophiques, sur l'école philosophique comme institution, le lecteur aura des outils pour aller découvrir les stoïciens. Ou sur les néoplatoniciens, je ne parle pas des néoplatoniciens, mais je donne au lecteur, par exemple, des outils, donc bien sûr Platon, mais aussi il y a tout un chapitre sur ce que j'appelle la philosophia initiatique, qui relève en fait aujourd'hui de l'histoire des religions antiques, mais qui devrait relever de l'histoire de la philosophie antique, puisque ce sont des gens qui se disent philosophes et qui sont reconnus comme philosophes, mais dans un sens différent du sens habituel, puisque dans ce contexte-là, la philosophia, c'est la science des choses humaines et divines. Et à ce moment-là, philosophia se confond avec théologia, ce qui pour nous est évidemment étonnant. Mais avant le christianisme, philosophia peut être interchangeable avec théologia. Et donc, il faut faire une place dans ce livre à cette philosophia initiatique. Et donc, ce chapitre-là peut apporter des outils pour comprendre le néoplatonisme ou la théurgie.
Alors, premier moment de cette histoire que vous nous proposez, plonger dans le monde des sages, vous appelez ça le monde des sages, qui est aussi celui des penseurs ioniens, hein, ceux qu'on appelle ainsi, Thalès et Anaxagore, et auxquels vous consacrez un certain nombre de pages, puis vous identifiez un premier changement de décor, justement, le passage à Athènes et l'éclosion de la philosophie athénienne, justement. Et vous tordez le cou à un premier préjugé, hein, dont vous parliez tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir l'idée que l'émergence de la rationalité philosophique se serait opérée au prix d'une dissociation, hein, d'une désalliance avec la religiosité. Donc, il faudrait, si on vous suit, abandonner cette idée qu'il y aurait quelque chose comme un passage extrêmement clair, justement, du mythos au logos, c'est-à-dire du mythe au discours rationnel et à la philosophie. Est-ce que vous pouvez revenir, justement, sur ce premier moment et cette première révolution ?
Oui. Donc, effectivement, dans les récits traditionnels sur la philosophie antique, mais vous avez raison, enfin, je reprends votre terme, ce sont des mythographies. Ce sont des mythes, mais simplement, ce sont des mythes qui ont ceci de paradoxal, qu'ils se définissent comme non mythiques. Voilà, le discours qu'on tient sur la philosophie. Ce sont des mythes tenus par des gens qui se posent en adversaires des mythes. Et donc, selon cette mythographie savante, la philosophie naît en Ionie. L'Ionie, c'est l'Asie mineure, donc la côte de l'actuelle Turquie. Avec notamment Thalès de Milet. Il y a même un historien de la philosophie antique qui dit, Jonathan Barnes, un historien anglais très, très connu, qui dit « Elle naît exactement le 28 mai 585 avant Jésus-Christ, lorsque Thalès de Milet prédit une éclipse de soleil. » Alors, quelle est l'idée derrière, sous-jacente? Parce que c'est un physicien, c'est quelqu'un qui explore la nature, donc loin des dieux, hein, loin des dieux, etc., etc. Bon. C'est extraordinaire, parce que en réalité, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire de l'astronomie antique, je pense à un très immense savant qui s'appelle Otto Neugebauer, très grand savant, qui a parfaitement montré que à l'époque de Thalès, il est absolument impossible de calculer la date d'une éclipse. Et il faut attendre, je crois, 2 ou 3 siècles pour voir des gens capables de faire ça. Et c'est très amusant, parce que Neugebauer dit, bon, de toute façon, je n'arrête pas de le dire, mais je sais que ça ne sert à rien. Enfin, il y a cette espèce de fatalisme, parce qu'il sait qu'il est face à un mythe. Et un mythe, bon, je crois que c'est Bourdieu qui dit ça, c'est une croyance qui a une force sociale. Alors, ça a une force sociale, ça a de la force sociale quand quelqu'un nous dit ça, c'est né quand il a prédit l'éclipse. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'éclipse? Bon, si on regarde les textes, on se rend compte que les gens comme Thalès ou Anaxagore, qui est en fait le dernier chaînon de cette chaîne ionienne qui va relier l'Ionie à Athènes, ce sont des gens qui sont des sages, des sophoïs. Et les sophoïs, ce sont des gens qui sont des gens aimés des dieux. Ce sont des gens qui sont aimés des dieux et ils doivent leur savoir aux dieux. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils font pas, ils ne mènent pas une activité rationnelle. Je vais y revenir. Et par conséquent, grâce au fait qu'ils sont aimés par les dieux, ce sont des voyants. Ils voient des choses que les hommes ne voient pas. Ils voient l'invisible. D'ailleurs, il y a un lien étymologique entre sophos et saphès, la clarté. Bon. Le sophos, c'est celui qui voit clair. Donc, Thalès a vu qu'il y aurait une éclipse. C'est tout. Il l'a vu. De même qu'à un moment donné, il voit dans les étoiles qu'il y aura une récolte d'olives abondante à la saison suivante. Et là aussi, les gens vous disent ça, comme si on voit bien que c'est un scientifique, il observe les étoiles, mais enfin, vous ne pouvez pas prédire la récolte des olives en regardant les étoiles d'une saison sur l'autre. Bon. Et c'est très intéressant, et en réalité, si on regarde ce que ça veut dire, on se rend compte que c'est ce que faisaient les prêtres égyptiens. Ils observaient les étoiles et prédisaient à partir de là, notamment les récoltes. Donc ils font de l'astrologie. Donc ils faisaient de l'astrologie. Voilà. Ça c'est Aristote qui raconte ça, sur Thalès. Donc effectivement, on a affaire à un mythe qui n'a aucun. Thalès dit tout est plein de dieux, par exemple. C'est le seul fragment de Thalès à peu près sur lequel on peut être sûr que c'est vraiment du quelque chose qu'il a pu dire. Tout est plein de dieux. Et Aristote le cite en disant ça. Et donc j'y viens à cette question de la rationalité. À un moment donné, on raconte cette histoire. C'est une tradition. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que c'est comme ça que les gens concevaient les choses à l'époque. Il trace, donc il fait de la géométrie et donc activité rationnelle s'il en est. Il inscrit un triangle rectangle dans un cercle. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour célébrer ça? Eh bien, il sacrifie un bœuf à Apollon. Donc il remercie le dieu de l'avoir aidé. De l'avoir aidé. Sans le dieu, il ne peut pas faire ça. Et une dernière anecdote à ce propos, pour vraiment vous dire, c'est dans les textes. Il y a un moment aussi, une autre tradition qui raconte comment quelqu'un vient trouver Thalès pour lui remettre, pour lui annoncer qu'il a été choisi comme le meilleur sage par l'oracle de Delphes. Et où est-ce qu'il le trouve? Il le trouve en train de faire de la géométrie. Où ça? Sur le sable, à l'intérieur du sanctuaire d'Apollon. Vous voyez? Donc, cette opposition entre la raison et la religion est une opposition moderne. Une activité rationnelle n'est pas nécessairement extérieure à un contexte religieux. Et la notion même de religion, tout à l'heure je parlais de Bruce Lincoln, elle pose problème puisque en réalité c'est une notion qui n'apparaît pas. Dans le sens actuel, c'est une notion moderne en fait. Les historiens des religions, à la différence des historiens de la philosophie antique, les historiens des religions réfléchissent énormément sur leur catégorie. Et donc, ça fait très longtemps qu'ils ont montré que la notion de religion posait problème, et que, puisqu'en fait, elle date vraiment du XVIIe, XVIIIe.
Autre mythe que vous déconstruisez, celui de Socrate. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, Socrate. Alors, écoutez, je ne veux pas caricaturer la position adverse. Donc je vais parler. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a différentes interprétations, etc. Moi, je voudrais parler, disons, du Socrate qu'on m'a enseigné, du Socrate que j'ai connu, si j'ose dire, quand j'ai fait mes études, aussi bien au lycée qu'en classe prépa. Un Socrate vraiment qui me faisait, dont la mort dans le Phédon me faisait presque littéralement pleurer. Hein, c'est absolument. Mais même aujourd'hui, je veux dire, quand je relis la fin du Phédon, c'est bouleversant. Platon, magnifique écrivain. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Socrate? C'est, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est vraiment notre... C'est nous. Enfin, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est la... Alors, il y aurait, je dirais qu'il y aurait deux grands éléments qui composent cette figure de grand-père, quoi. C'est d'abord l'individu, l'être qui est atopos, qui n'a pas de lieu dans la cité, qui est lui-même, qui n'est pas une fonction, qui est libre, donc qui annonce un peu la subjectivité qui nous est chère, cet idéal de la subjectivité. Mais vous connaissez ce sujet mille fois mieux que moi, peut-être vous serez d'accord ou pas, vous me direz. Et d'autre part, donc il y a cette liberté de l'individu qui va être du coup détruit par la cité. Et puis d'autre part, je dirais, il y a l'idéal rationaliste de la critique, de l'examen et de l'examen en commun, la dialectique. Mais si tu me réfutes, alors je serais ravi d'être réfuté. Cette espèce de, on cherche la vérité ensemble, etc. Donc, à la fois donc la liberté de l'individu et le rationalisme critique. Donc voilà, ça c'est, je dirais, l'image traditionnelle de Socrate. Et puis, si on essaie d'oublier tout ça, parce que bon, je pense, mais il faudrait en parler plus longuement, mais je pense que cette figure-là vient, je dirais, à la fois du 18e, pour la partie Socrate rationaliste, bon, les philosophes sont reconnus Socrate comme grands ancêtres, les philosophes au sens d'homme des Lumières, et puis, pour la partie individu, je pense que ce sont surtout les philosophies de l'existence. Vous voyez, Kierkegaard parle, je crois, de Socrate comme premier individu. Et donc, si on essaie d'oublier ça, oui, encore un principe de méthode. Je pense qu'il est tout à fait possible de lire ces textes en oubliant tout ce qu'on sait. Ça, c'est un principe, justement, qu'on trouve souvent dans l'épistémologie historique de l'école française. Je pense à un texte de Coiré, par exemple, qui dit ça. C'est un très beau texte de Coiré sur Paracelse, qui a été publié, réédité récemment chez Alia. Donc, essayer d'oublier tout ce qu'on sait. Et c'est pas... En fait, souvent, on dit, mais c'est impossible. Je pense que c'est pas impossible. L'important, c'est de savoir si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, si vous avez envie de vous raconter que bon, c'est vos grands ancêtres et à la Castoriadis, bon, ça peut pas marcher. Vous allez faire du Hegel, disons, pour aller vite. Bon, mais si vous êtes intéressé par les choses étonnantes et merveilleuses que vous allez découvrir, et si vous êtes curieux, eh bien, je pense que c'est pas compliqué. C'est un peu un geste à la Descartes, si vous voulez. Donc, vous mettez en suspens tout ce qu'on vous a appris à l'école et vous allez au texte. Donc, c'est ce que j'ai fait, tout simplement, avec l'Apologie de Socrate. Je me disais, bon, je vais travailler sur Socrate. Je commence par le texte classique, écrit par un grand ami de Socrate, l'Apologie de Socrate. Bon, je lis. Et là, je suis très étonné par ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois un Socrate qui, au fond... Alors, évidemment, il y a tout un travail derrière sur le contexte de Socrate, que j'avais fait un travail sur Athènes. Qu'est-ce que c'est qu'Athènes à l'époque de Socrate? Bon, et pour le dire en un mot, Athènes, c'est une cité dont l'élite politique néglige les dieux. J'entends pas la question, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils croient pas aux dieux, mais enfin, ce sont des gens qui... Peut-être qu'ils y croient, enfin ils croient, mais enfin les dieux, voilà, c'est pas très important. Bon, alors, lisez par exemple le dialogue des Athéniens et des Méliens dans Thucydide, c'est absolument merveilleux de ce point de vue-là. C'est d'une brutalité incroyable. Et les Méliens disent, mais alors vous allez nous exterminer alors qu'on vous a rien fait, juste parce qu'on est neutre, on veut pas s'engager avec vous dans la guerre contre Sparte, moi je suis neutre. Vous pensez pas que les dieux vous puniront? Alors les Athéniens, vous, les dieux, bon, ils s'en fichent complètement. Bon. Et donc, ça, c'est le contexte. Donc, une élite politique formée par des maîtres de Sophia, des sophistaï, traduit par sophistes, d'accord, donc, qui sont effectivement d'une grande hardiesse et mènent une politique impérialiste sans précédent en Grèce, puisqu'ils vont faire une expédition en Sicile, ce qui s'était absolument jamais vu. Enfin, là aussi, Thucydide est un merveilleux témoin de ça, et de la peur que ça suscite chez beaucoup d'Athéniens de voir cette attitude d'hubris. Et alors, dans cette ville-là, dans cette cité-là, dans cet état impérialiste, arrive ce Socrate. Et alors, c'est là que j'en reviens à l'apologie de Socrate. Donc, Socrate dit, ben, vous savez tous cette histoire, donc l'oracle de Delphes dit que Socrate est le plus sage des hommes, et Socrate comprend pas pourquoi le dieu a dit ça, et en fait, du coup, il va commencer à aller voir les maîtres de la Sophia, et là, et ben, il va s'apercevoir que, en fait, le savoir humain est nul. La Sophia Anthropinée, c'est littéralement le savoir humain, la Sophia Anthropinée, est équivalente à zéro, ouden, c'est rien. Donc on a une espèce de retour en arrière, ça rappelle tout à fait les histoires qu'on entend dans la Grèce archaïque, où les dieux tiennent à ce que les hommes gardent la bonne mesure. Hein. Connais-toi toi-même, ça veut dire reste à ta place. Bon, il y a plein d'interprétations différentes. Mais l'interprétation traditionnelle, c'est celle-ci. L'interprétation majoritaire, c'est celle-ci. Et donc, en fait, ce que comprend Socrate, c'est qu'il a une mission. Une mission qui est envoyée par le Dieu. Il dit qu'il est au service du Dieu, mais en employant une expression qui est très lourde. Il dit l'Atreia. L'Atreia, c'est servage. Une expression qui est absolument inouïe pour un grec. Les Grecs ne parlent pas du tout comme ça de leur relation avec les dieux. Et dans les commentaires à l'apologie de Socrate, ce passage n'est pas vraiment commenté, alors que c'est inouï, c'est absolument incroyable. Donc il est au service du Dieu, et parce qu'il est au service du Dieu, il négligera tous ses devoirs d'homme, de citoyen, de parent, d'ami, il laisse aller ses affaires, il devient une espèce de clochard, parce qu'il ne fait que ça, c'est se mettre au service du Dieu pour prouver le néant du savoir humain en passant son temps à aller voir les gens qui sont quand même des héros, même pour nous, de la culture intellectuelle, pour leur expliquer qu'en fait, ils valent rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un texte où Platon le montre magnifiquement, c'est un texte du Théétète, qui n'est là aussi bizarrement jamais commenté. Alors qu'il y a tant de commentaires sur les différentes figures que revêt Socrate, Socrate le Silène, Socrate la torpille, Socrate le temps, Théaon, l'insecte. Et là, on a un autre texte de ce genre. Les Athéniens étaient très friands de ces comparaisons. C'était comme un jeu de société, si vous voulez. Et il y a un texte dans le Théétète où Socrate est comparé à un monstre mythologique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, c'est Anté ou Skiron, sont deux monstres différents. C'est-à-dire, le monstre mythologique, c'est le monstre qui se tient sur la route, comme le sphinx avec Oedipe, si vous voulez, et qui barre la route. Et en fait, les monstres sont souvent envoyés par les dieux. Là aussi, pour un peu empêcher les hommes de faire leur chemin, étant donné que le cheminement dans la pensée grecque, c'est une métaphore de la pensée. Et donc, Socrate se compare à ce monstre et compare les sophistes aux héros de la mythologie, aux Thésée, aux Héraclès, donc qui sont les héros civilisateurs. Donc, il se compare lui-même à une espèce d'entité archaïque qui est un élément de l'ordre ancien. Et ce passage est absolument magnifique parce qu'il dit à chaque fois, il me terrasse, je suis terrassé par ces héros, mais je me relève toujours. Voilà. Mais comme tout le dialogue est placé sous le signe de la mort de Socrate, c'est juste avant la mort de Socrate, il y a une couleur tragique derrière qui est absolument magnifique. Donc voilà, mais ce qui est très étonnant, et j'en finirai là, c'est qu'au service de cette mission archaïque, je dirais, il va employer une méthode, on ne peut plus moderne, et cette méthode, c'est la dialectique. Qui se pratiquait dans tout le 5e siècle athénien. Donc c'est le dialogue. Mais souvent, on a l'impression que c'est Socrate qui invente ça, mais pas du tout. C'est vraiment la dialectique était, j'allais dire, un jeu de société à Athènes. Et simplement, ce qui distingue Socrate des autres, c'est que c'est le maître de la dialectique. Donc en fait, il va utiliser une technique, pour aller vite, ultra-moderne, le nec plus ultra de la modernité, mais au service d'une mission on ne peut plus archaïque.
Alors, vous consacrez un chapitre à Rome, qui pour vous, qui selon vous, enfin, la philosophie romaine et le changement de paradigme, j'allais dire presque, puisque vous parlez de révolution impériale, est fondamental dans votre analyse, dans votre histoire. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce qui change avec Rome ? Vous êtes un des rares à considérer qu'il se passe quelque chose d'absolument essentiel du point de vue de l'histoire de la philosophie. Et il est vrai que Rome est oubliée au profit souvent de la Grèce, y compris dans le champ universitaire.
Alors, je vais vous répondre en distinguant deux Roms, en fait. Il y a d'abord la Rome républicaine, donc c'est une république aristocratique, c'est pas du tout une démocratie, c'est une république comme l'était Venise, par exemple. Et puis, la Rome impériale, c'est le régime qu'on appelle parfois le Principat, bon, qui en fait est une monarchie, mais une monarchie qui ne dit pas son nom. Je vais y revenir. Alors, eh bien, les Romains, je dirais que ce qui change avec la Rome républicaine, c'est que, alors que dans le monde grec, quelle que soit la variété des pratiques, les pratiques philosophiques étaient toujours justement religieuses, c'est-à-dire que bon, elles se pratiquaient toujours dans le cadre d'un culte. Bon, les écoles philosophiques, vous un culte aux muses, par exemple. L'école d'Épicure, vous un culte à Épicure. Bon. Et à Rome, la philosophie perd cet aspect cultuel. La philosophie est objectivée par les Romains comme un ensemble de savoirs, de doctrines, dont ils vont faire différents usages. Différents usages, ils vont les utiliser pour leurs discours d'orateur, ils vont les utiliser pour leurs conversations au banquet, ils vont les utiliser pour leurs œuvres littéraires, par exemple dans le De Rerum Natura. Ils vont les utiliser pour leur... Oui, pour le discours d'orateur, j'ai dit, et je pensais à Cicéron en particulier. Et bon, on pourrait multiplier les exemples de ce genre d'usage, mais ce sont toujours des usages profanes. Et donc, c'est ça qui change avec la République, c'est la philosophia devient profane. Et en ce sens, c'est déjà une première étape vers ce qu'est la philosophie pour nous. Et les Romains vont faire pareil avec l'art, d'ailleurs. Ils vont dans les temples grecs et ils prennent des statues qui sont vouées aux dieux et eux, ils les mettent comme des œuvres d'art, en fait, ce qu'ils appellent des ornamenta, dans l'espace public ou dans l'espace privé. Donc, des œuvres qui sont conçues comme cultuelles deviennent profanes. Donc, ils peuvent aussi, on pourrait dire qu'ils inventent l'art aussi. Donc, ça c'est une première révolution. Et la deuxième révolution, celle qui se produit sous l'Empire, c'est-à-dire que, donc, je vous le disais, l'Empire, c'est un régime un peu schizophrène, parce que les Romains ne pouvaient pas entendre parler de monarchie, parce qu'ils ne faisaient pas la distinction entre la monarchie et la tyrannie. Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris ça, c'est Jules César. Donc, il a pensé qu'il allait pouvoir être reconnu comme un roi, comme il y avait des rois et des grandes monarchies hellénistiques. Bon, et, comme vous savez, ça a très très mal fini. Donc, Auguste s'est dit, mais moi je vais faire autrement. Je vais en fait laisser à peu près les institutions fonctionner, mais simplement je vais les vider de leur substance. Donc il y aura toujours un Sénat, des tribuns, je vais les vider de leur substance, ou c'est moi qui vais assumer ces fonctions, etc. Bon, bref, donc ça se met en place. Et je pense que cette schizophrénie, j'emploie à dessein cette notion, explique ce phénomène tout à fait étonnant, c'est que tous les premiers empereurs commencent toujours par être des gens à peu près normaux, et ils finissent toujours par devenir fous. Bon, vous savez bien ça. Et puis, c'est quand même étonnant. Mais je pense que ça tient au fait que c'est un régime monarchique qui ne se dit pas. Donc, ils ont une fonction qui, pour eux, est monstrueuse. Et donc, finalement, ils font tous leurs efforts au début pour avoir l'air normaux. Puis, finalement, ça explose. Et ça se stabilise au moment où... Eh bien, je pense tout simplement les générations avançant, les gens finissent par oublier un petit peu cette horreur romaine de la monarchie. Mais les philosophes vont contribuer à cette légitimation de la monarchie. Et c'est là qu'on voit fleurir ces images d'empereurs philosophes. Bon, vous connaissez tous Marc Aurèle, mais ça commence dès avant Marc Aurèle, avec par exemple Antonin le Pieux. Et les philosophes, vous savez, les philosophes antiques détestent la démocratie. c'est difficile de citer un philosophe antique qui ait du bien à dire sur la démocratie. En revanche, si vous cherchez des textes de philosophes faisant l'éloge de la monarchie, alors là, vous en avez une quantité. Et donc, ils vont fournir au régime impérial, pour le dire vite, je dirais, des éléments de langage pour légitimer le nouveau régime, notamment l'idée que l'empereur est un bon berger, est un berger avec son troupeau. Ça vient de, par exemple, du Politique de Platon, ou l'idée que l'empereur est envoyé par la providence, la pronoia, encore une notion philosophique. Voilà, enfin, je vais pas te rentrer dans les détails, mais donc c'est ça, à mon avis, qui constitue la deuxième grande révolution. C'est donc cette disparition de l'esprit républicain au profit d'une valorisation sans précédent de la monarchie. Et je pense que ce que je veux dire est un peu hardi, mais je pense que on n'en est pas sorti. Je pense que dans l'histoire européenne, là je vais faire un peu comme Castoriadis. C'est vrai qu'il y a des grands moments où on voit des moments où les citoyens veulent s'organiser de façon autonome, notamment avec les communes italiennes, chères à Castoriadis aussi. Et puis ça, il finit toujours par avoir un monarque qui émerge, notamment dans les communes italiennes. Et c'est quand même étrange, parce que dans les cités antiques, on n'observe pas ce phénomène. Mais je dirais qu'il y a eu un tel matraquage dans la formation des élites, sur l'idée quand même, la monarchie, la figure du bon père, du bon pasteur, du bon berger, vers qui on se tourne quand il y a un problème, etc. Je pense que chacun d'entre nous peut tout à fait faire des parallèles avec le monde dans lequel nous vivons.
Alors, dernière rupture anthropologique fondamentale que vous identifiez, le moment chrétien, hein, puisque selon vous, le christianisme met fin justement à cette diversité, à cette pluralité de la philosophie antique pour lui substituer ce que vous appelez une tyrannie de la vérité, une orthodoxie. Et de ce point de vue-là, vous retrouvez Foucault, puisque selon vous, donc, le moment chrétien, c'est le moment de la politisation de la question de la vérité. En quoi c'est essentiel, selon vous, du point de vue de cette histoire que vous tracez ?
Alors, effectivement, c'est encore un chapitre qui était essentiel dans mon livre, parce que, justement, le christianisme est souvent extérieur à l'histoire de la philosophie antique. Si vous cherchez une histoire du christianisme antique, vous irez voir des historiens des religions et pas de la philosophie. Or, le christianisme s'est présenté comme une philosophia. C'était une de ces philosophiailles initiatiques dont je parlais. Donc des gens qui disent, moi j'ai la connaissance, j'ai la science du divin, je suis une théologia. Bon. Simplement, la différence avec les autres, c'est que, alors, non, le christianisme, là encore, est une réalité plurielle, contradictoire. Donc, quand je parle de christianisme, qu'on s'entende bien, j'entends le christianisme qui se met à gouverner l'Empire, donc l'Église officielle, hein, bien sûr. Et donc, le christianisme dit, je détiens la vérité, je suis la vera philosophia, la vraie philosophie. Mais ça, d'autres écoles l'avaient dit, je détiens la vérité. Il y avait des philosophies, évidemment, dogmatiques. Mais personne n'avait jamais dit, je détiens la vérité, et par conséquent, désormais, tout le monde se tait. On met fin à la discussion. Ça, il y a des épisodes absolument remarquables de confrontation entre l'Antiquité et le christianisme. Je voudrais, si vous le permettez, juste raconter cet épisode qui est tellement exemplaire. Nous sommes à la fin du IVe siècle, donc l'Empire, l'Empereur est chrétien, mais subsiste encore, la religion païenne continue, malgré tout. Donc le Sénat à Rome a une déesse qui est la déesse de la victoire, des sacrifices lui sont faits régulièrement, etc. Et puis à un moment donné, Ambroise, le très puissant évêque de Milan, eh bien, convainc l'empereur chrétien, d'abolir ce culte. Parce que voilà, c'est terminé, tout ça, ça doit. Bon. Et alors, les sénateurs envoient une délégation parce que, à Milan, parce que l'empereur à ce moment-là est à Milan. Donc, ils envoient l'un d'entre eux, qui s'appelle Symmaque, pour dire, mais c'est extraordinaire, parce que lui, il dit, mais d'accord, les chrétiens, vous dites que vous détenez la vérité, mais il n'y a aucun problème. Mais il y a cette phrase magnifique, il dit, nous habitons tous un même monde, un même univers nous enveloppe. On ne peut pas parvenir par un seul chemin, uno itinere, à un mystère aussi grand. Tam grande mysterium. On ne peut pas arriver par un seul chemin, donc il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Et Ambroise lui répond, non, c'est terminé. On a trouvé la vérité, et donc c'est terminé. Et ça, c'est absolument nouveau. Mais là, et d'ailleurs, les chrétiens, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, vont persécuter des chrétiens. Très vite, il y a des chrétiens qui sont considérés comme hérétiques, ils ne sont pas dans la bonne vérité, donc terminé. Et le deuxième point qui est très important, qu'on trouve dans le catéchisme actuel, d'ailleurs, de l'Église catholique, est une phrase tout à fait étonnante qui dit « Chaque homme a le devoir de chercher la vérité ». Mais pourquoi ? Pourquoi chaque homme aurait-il le devoir de chercher la vérité ? Pourquoi la vérité devient-elle quelque chose qui est absolument vital ? Et évidemment, une vérité, la vérité sur le divin, donc sur quelque chose qui est métaphysique, qui n'est pas sensible. Et évidemment, il a le devoir, non seulement il a le devoir de le chercher, mais à part ça, il y a des gens qui l'ont trouvé, il y a l'article suivant, c'est sur le pape qui est infaillible, etc. Bon. Et enfin, maintenant, il a des problèmes. Maintenant, j'ai vu qu'il était traité d'hérétique. Bon, c'est compliqué. Moi, je l'aime beaucoup, ce pape. Hein. Beaucoup d'admiration pour lui. J'espère le rencontrer un jour. Et donc, c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on a tout d'un coup cette idée que chaque homme... Pourquoi est-ce que la vérité théologique, évidemment, pas la vérité scientifique, pourquoi est-ce que ça devient absolument vital que tout le monde soit d'accord là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il faut persécuter toute la population pour que tout le monde croie la même chose? Pourquoi est-ce qu'il faut faire la police de la croyance à la vérité? Et je pense que là aussi, sous une forme sécularisée, même des gens qui ne sont absolument pas chrétiens, mais sous une forme sécularisée, cette tyrannie de la vérité a perduré. Si vous n'êtes pas dans la bonne vérité idéologique, même si c'est une vérité laïque, etc., vous êtes voué à un destin malheureux. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point la culture antique est une culture profondément sceptique, en fait. Même dans les écoles dogmatiques, finalement, il y a quand même toujours l'idée que la discussion est absolument, un sine qua non de la vie civilisée. Vous savez combien les philosophes se sont battus, mais jamais il y a... Il y a la moindre idée qu'il faudrait mettre fin à la discussion. Ce serait la mort de la philosophie pour eux.
Voilà. Malheureusement, le temps presse. Donc, on va vous remercier d'abord beaucoup pour cette conférence.